Je m'appelle Sandrino Grasse et Foi.
Comment est-ce que vous avez croisé le chemin de cette radio locale, Radio PFM?
Vraiment au tout début du lancement de Radio Provisoire à l'époque, j'étais adolescent, j'avais 15 ans, 14-15 ans. Je finissais le collège, rentrais au lycée. Je me souviens que j'ai vu les premières affiches qui annonçaient le démarrage des émissions de Radio Provisoire. Et donc, ça m'a tout de suite passionné. J'ai essayé de trouver qui était derrière. Et très vite, quelques mois après la création de Radio Provisoire, je me souviens encore de petites affiches plaquées en blanc rue Saint-Aubert. J'ai remonté et puis j'ai fini par trouver les gens qui étaient derrière, qui n'étaient pas encore vraiment installés dans des locaux fixes. À l'époque, les locaux tournaient. Et donc, voilà, j'ai retrouvé et puis je leur ai proposé tout de suite de participer aux émissions.
Alors c'était quoi des affiches qui appelaient donc à des projets, c'est ça?
Non, pas du tout. C'était juste des affiches qui disaient Radio Provisoire, émission. Je crois que il n'y avait qu'une seule émission par semaine. Et donc, à l'époque, c'était assez extraordinaire de voir c'était vraiment le tout début des radios libres. C'était juste avant, de mémoire, je dirais juste avant la légalisation des radios libres. Et donc, c'était vraiment tout nouveau, quoi. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce projet? Et puis quel projet vous avez, quelle émission vous animiez à l'époque, quand vous êtes arrivé à la radio, c'était plutôt pour la musique ou juste pour l'expérience radio?
C'était un mélange de deux choses. C'était l'émission que j'ai animée pendant quelques années. C'était un peu les prémices du peer-to-peer, parce que ça s'appelait Rock Gratuit. Et le principe de l'émission, c'était à la fois d'inviter des copains de lycée à venir présenter des disques qu'ils aimaient bien. Donc c'était à la fois l'idée de partager les goûts musicaux communs. C'était essentiellement, on va dire, les tendances, on va dire, du rock des années 80. Enfin, donc c'était très marqué par les tendances punk. Et puis c'était le début aussi un petit peu de la new wave, de la pop, les prémices du rap. Hein, mais c'était donc très marqué. Enfin, on écoutait beaucoup Sex Pistols, les Clash, les Ramones, des groupes comme ça. Et également toute une série de. C'était aussi toute une l'idée de faire la promotion de tous les groupes, de nombreux petits groupes français. J'avais pas simplement régionaux, puisqu'on a reçu dans les locaux de PFM de nombreux groupes qui sont après qui ont été un peu plus connus, quoi. Voilà, donc il y avait c'est le début d'une nouvelle vague de rock français également qu'on souhaitait promouvoir, quoi. Voilà.
Ça, c'était rock gratuit, ça a duré de quand à quand?
Alors de mémoire, ça a duré quelques années, mais pas si longtemps que ça. Enfin, quand on a à cet âge-là, on pense que ça dure longtemps, mais c'était pas si long que ça. Ça a duré pour moi, je dirais de 82 à 84, 82, 83, 84. En ce qui me concerne, j'ai arrêté au milieu de l'année 84. Hein, de 82 à 84, 2 ans à peu près.
Peut-être, est-ce qu'il y a des souvenirs comme ça qui vous reviennent de groupes qui vous ont, des rencontres qui vous ont marqué dans ces années-là?
Alors, ce qui est clair, c'était à la fois l'idée que c'était quand même de la musique qui passait assez peu à la radio. Donc, ce qu'on faisait, c'était quand même un peu particulier enfin, aujourd'hui non, mais à l'époque, on n'entendait pas forcément passer à la radio les Subkinz, qui est un groupe dunkerquois qui regroupe des garçons bouchers de Dunkerque, qui faisaient de la musique punk. C'était quand même pas très courant. Ça, c'est un exemple. Ou un groupe de Denain qui s'appelle et qui est relancé aujourd'hui, qui s'appelle Trisomie 21, qui venait aussi nous rencontrer. Il y avait d'autres groupes comme Radio Romance, WC3, enfin des tas de groupes qui, pour certains, ont continué. Et donc, ce qui était particulier, c'était à la fois le style de musique, mais c'était aussi la façon dont se passait l'émission, qui était où un peu tout le monde pouvait prendre la parole pour dire un peu tout et n'importe quoi. Donc c'était un mélange d'une émission un peu, on va dire, un peu branchée de rock, avec un mélange aussi de l'émission de Polak, Droit de réponse, où des auditeurs arrivaient en pleine émission pour dire « Mais c'est quoi ce que vous passez? C'est nul. » Et repartaient. Enfin, c'était vraiment... chaque émission, c'était un événement en soi. Dans la rue Baudimont, où on était installé, c'était vraiment... quelquefois, il y avait jusque 80 personnes qui attendaient dans le couloir. Donc, il y avait toujours l'émission en tant que telle, l'après-émission... où c'était l'occasion de faire se rencontrer des artistes avec des auditeurs. Enfin, c'était chaque émission, c'était un événement en soi, et quelquefois ça pouvait aussi un petit peu dégénérer, partir en vrille, quoi. Et heureusement, à l'époque, le propriétaire des locaux de PFM était le père de Patrice, qui nous faisait la technique. Et donc on avait trouvé le seul moyen qu'on avait trouvé pour pas se faire engueuler par le propriétaire, parce qu'on crée quand même un peu de désordre chez lui, c'était d'embaucher, on va dire entre guillemets, même si c'était bénévole, son fils à la technique. Et donc voilà, c'était le seul moyen qu'on ait trouvé. Et ça allait, on était juste à côté d'un bistrot qui existe toujours, hein. Et donc ça se passait bien parce que d'une certaine manière, on s'arrangeait avec le propriétaire, on faisait quand même on bien vivre le bistrot à côté. Et donc tout le monde était à peu près content, mais on créait quand même quelquefois un peu de désordre. Moi, je suis toujours assez reconnaissant des gens qui étaient plus âgés que nous et qui nous ont laissé faire ça, parce que je suis pas persuadé que ce soit aussi simple aujourd'hui. Voilà.
Alors justement, ouais, c'est un peu la question suivante. Les gens qui sont à la base de la radio, c'est plutôt des gens qui sont dans le secteur syndical ou des militants, on va dire, plutôt sur une tendance gauchiste écolo. Et les gens qui sont arrivés après sont arrivés plutôt avec des projets musicaux. Alors comment ça se passait, j'allais pas dire cette cohabitation, mais... Il y a quand même c'est des générations différentes et puis aussi une manière d'utiliser la radio qui est différente.
Je pense que ça, c'est vraiment, effectivement, tu as raison de dire qu'il y a une espèce de cohabitation entre deux familles, quoi. Une famille qui est plus qui portait un projet politique, on va dire, au travers la radio, mais au travers les questions de développement culturel en général. Et puis, plus une tribune pour des gens qui voulaient s'exprimer, on va dire, dans le champ des musiques actuelles, quoi. Donc, effectivement, il y avait un peu ce mélange. Mais ça s'est toujours bien passé. Et en ce qui me concerne, ça a été l'occasion d'un véritable apprentissage de la gestion d'une association. Et avec tout ce que ça comporte, même des fois un peu de manière excessive, de logique de gestion démocratique d'une vie associative. Donc pour moi, ça a été à la fois une expérience très enrichissante, parce que l'occasion d'apprendre à s'exprimer, à travailler un peu en équipe, mais surtout, et j'en ai quasiment fait ma profession plus tard, apprendre à développer une association avec tout ce que ça comporte de difficultés liées au fait que on est dans une organisation où la décision est collective. J'ai vraiment gardé en mémoire des séances de conseil d'administration. Je me souviendrai toujours du conseil d'administration qui a permis le changement de nom, de passage de Radio Provisoire à PFM. Je suis pas sûr, mais dans ma mémoire, ça a duré quelque chose comme 24 heures, quoi. Alors, je suis pas sûr que ce soit la réalité, mais je me souviens que on a commencé le matin et je sais pas si on n'a pas fini en pleine nuit. C'est-à-dire que vraiment, on pouvait passer des heures et des heures et des heures à échanger, à polémiquer sur une décision. Bon, elle était effectivement importante à prendre, mais c'était pas que un changement de nom derrière, et c'était aussi le projet. Donc, une réflexion sur le projet porté par l'association Média qui est la structure qui gère cette radio libre.
Alors, bon, vous en avez parlé succinctement. Enfin, vous travaillez dans une, c'est une association, hein, qui, non, pas du tout.
Non, c'est une société, c'est pas grave.
Donc, mais toujours dans le, enfin toujours, c'est dans le, donc c'est une entreprise qui travaille sur le développement local. Est-ce
Oui,
que
oui.
c'est cette, la démarche de cette entreprise et votre implication dans la radio, est-ce que vous, est-ce qu'il y a une filiation? Est-ce que vous avez l'impression que c'est dans la même lignée ou pas du tout?
Ah bah à complètement. C'est-à-dire c'est moi j'ai appris au travers PFM, Radio Provisoire ou l'association Média, comme on veut. J'ai appris comment fonctionnait une association, comment s'impliquer dans un projet collectif qui a une répercussion sur un territoire, en l'occurrence l'Arrajois. Et donc je n'ai jamais cessé, suite à cette expérience-là, de développer des projets dans ce champ-là pour devenir aujourd'hui plutôt quelqu'un, une personne ressource au service des projets portés par les autres. Et donc mon travail aujourd'hui à Multicité, ça consiste à accompagner des collectivités territoriales ou des associations à développer de nouveaux projets, à la fois dans le champ économique, culturel ou social.
Quel est donc vous êtes parti en, vous m'avez dit 84, milieu 84. Quel a été un peu votre regard sur son évolution dans les années 80, 90? Et puis maintenant, est-ce que ça vous arrive encore de vous brancher sur le 99.9? Quel regard vous avez un peu sur ça? Peut-être d'abord la première partie des questions sur l'évolution de la radio dans les années 80. C'est quand même un tournant où il y a beaucoup de radios qui sont passées dans le côté commercial et pas à PFM, quoi.
Ben, je prends souvent l'exemple de PFM, quand je dois citer un exemple pour des associations ou des projets que j'accompagne, pour dire l'importance d'avoir une ligne politique, quel que soit le type de projet. Quand on a un projet collectif, associatif en l'occurrence, il est important d'avoir une ligne et d'une certaine manière de s'y tenir. Et moi, j'ai toujours été admiratif devant la capacité des personnes qui animent cette structure à garder cette ligne, je dirais, avec malgré le renouvellement permanent et générationnel des personnes qui animent cette structure. Il y a une ligne, il y a un ton, il y a vraiment quelque chose qui est spécifique, qui l'était que à l'échelle locale au démarrage, parce qu'il y avait beaucoup de radios libres. Aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Et de mon point de vue, PFM, c'est une des 10 références nationales en termes de radio libre. C'est vraiment une vraie radio libre dans l'esprit des radios libres telle que la gauche l'avait souhaité dans les années 80. C'est vraiment une radio associative qui sert ses auditeurs, qui sert les habitants, qui offre une alternative à l'offre commerciale classique ou une alternative à l'offre radiophonique institutionnelle. Donc de ce point de vue-là, de mon point de vue, il y a des changements au niveau de la ligne esthétique, au niveau musical, par exemple, mais pas tellement, parce que les choses, il y a une continuité. Et par contre, sur la programmation générale, sur le ton, sur les gens qui sont dans cette radio, sur leur mode d'implication, pour moi, c'est exactement pareil. Voilà.
Alors, est-ce que vous écoutez encore aujourd'hui cette
Ah
radio?
ouais, j'écoute de temps en temps PFM, mais j'écoute pas beaucoup la radio, mais j'écoute de temps en temps PFM. Je suis surpris, et je l'ai déjà dit au principal intéressé, je suis surpris quand j'entends des émissions qui sont aujourd'hui, qui continuent à être des émissions animées par des personnes qui étaient là au début. Je suis surpris de cette capacité à poursuivre une action aussi importante dans le temps et en gardant cette ligne, ce style qui est vraiment particulier.
Alors, on a évoqué les bons souvenirs. Bon, et est-ce qu'il y a aussi des mauvais souvenirs liés à cette radio? Bon, ça.
Ben, les mauvais souvenirs, au départ, franchement, on n'avait pas beaucoup de. On était, c'était quand même limité en termes de moyens techniques. Donc c'était quand même un petit peu quelquefois compliqué. Donc il y a cet aspect-là. On était assez peu professionnels. Hein. Aujourd'hui, ça s'est un peu professionnalisé. Il y a quand même une équipe, même si elle n'est pas importante en nombre, mais il y a une équipe professionnelle. Donc ça manquait cet aspect-là. Donc les problèmes, c'était ça. Et puis, enfin, pas les mauvais souvenirs, mais des fois, on se prenait vraiment la tête entre nous. On n'était pas d'accord, forcément, sur des échanges qui pouvaient avoir lieu. Enfin, c'était des prises de tête. Je me souviens surtout de. Il y avait un journal interne où chacun pouvait s'exprimer. Et il y a eu une période où c'est parti vraiment en vrille, où voilà, quoi. C'était vraiment. On se prenait la tête. Journal interne, par le biais du journal interne, et chacun pouvait être amené à remettre en cause une intervention d'un des animateurs.
Peut-être une dernière question pour la route. Est-ce que vous écoutez encore du punk?
Oui, depuis peu, alors je devrais peut-être pas le dire, mais grâce à un de mes collègues ici, qui a à peu près 20 ans de moins que moi, j'ai découvert que cette musique était toujours appréciée. Et je viens de télécharger sur mon ordinateur l'accès à une radio qui ne diffuse toute la journée que de la musique punk. Et donc voilà, donc j'ai sur mon ordi en permanence la possibilité d'écouter de la musique punk.